La matière, c'est la vie aussi.
Toutes ces idées qui viennent, il faut les attraper comme des mouches quand elles passent. Ce sont des idées bleues, des idées roses, des idées qui passent.
L'art et la matière. Une émission de Jean Deloisy.
Parce qu'on veut transformer la vie pour nous.
Ils empruntent des chemins qui n'existent pas, ils utilisent des formes et des mots inconnus, ils transforment ce que nous savions du monde, ce sont les artistes. Pour vous raconter ces aventures de l'œil et de l'esprit, j'invite écrivains, historiens, commissaires d'exposition ou simplement passionnés, car l'art est leur matière. Et aujourd'hui, pour reprendre notre élan vers l'art et la beauté, nous parlons du folklore. Folklore. Derrière ce titre qui évoque communément des traditions et des savoirs du passé populaire, surgit, étincelante, une influence superbe qui modifia la création la plus radicale de la fin du 19e siècle et du 20e siècle et qui continue d'intéresser aujourd'hui les artistes. Mais la question se pose, comment se fait-il que l'Académie, l'art savant, ait été soudain contaminé par cette culture immémoriale? Comment les artistes occidentaux de la rupture ont-ils trouvé là, non pas une vieille comptine ressassée, mais une liberté, une magie jusqu'alors négligée? C'est ce que Jean-Marie Gallet et Marie-Charlotte Calafat ont recherché pour le Centre Pompidou-Metz et le MUCEM de Marseille, ce qui donne lieu à une exposition itinérante entre ces deux institutions et à un catalogue exceptionnel. Si les folkloristes qui se multiplient en Europe au XIXe siècle et s'éprennent de leurs sujets, voyageant et recueillant les vestiges fragiles de savoir qui se fanaient et réenchantant ainsi les veillées, nos veillées par les récits retrouvés tout autant que par les sons, les formes, les amulettes et les rites. Mais un parfum moins suave par moments émane de la récupération politique puis commerciale qui en fut fait, n'éludant ni la magie poétique, ni la marchandisation de ces folklores qui nous touchent par leur authenticité parfois factice. Le Centre Pompidou et le MUCEM nous livrent une réflexion sur la revitalisation de la sensibilité européenne par ce qui fut longtemps maintenu dans les marges de l'art. Et pour parler de cette exposition, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Marie-Charlotte Calafat et Jean-Marie Gallet. Marie-Charlotte, vous travaillez au MUCEM, vous allez bien ?
Très bien, merci.
Bon, tout va bien à Marseille ?
Tout va très bien à Marseille.
Bon, vous travaillez au MUCEM, vous êtes responsable du département des collections, vous avez fait de nombreux co-commissariats que l'on connaît, en particulier, j'ai en tête évidemment le travail sur Georges-Henri Rivière qui évoque beaucoup ce dont nous allons parler aujourd'hui. Vous faites partie du comité de rédaction de la revue Technique et Culture et vous préparer une exposition sur l'anonymat dans l'art populaire.
La signature dans l'art populaire.
La signature.
Oui,
c'est pas la signature et l'anonymat, c'est juste la signature.
En fait, l'anonymat est une question qu'on a posée avec Alexandre Périgot dans une expo pour la réouverture là, du MUCEM qui vient de se clore. Et là, c'est l'idée de prendre le contre-pied, cet art populaire qu'on considère anonyme. Et en réalité, plein de signatures de gens qui ont voulu faire savoir, qui savaient faire et qui voulaient communiquer ce savoir-faire.
Alors, c'était attendu, évidemment, que le MUCEM, qui se passionne pour les traditions populaires, travaille sur cette question du folklore. Ça l'était peut-être un peu moins, Jean-Marie Gallet, que le Centre Pompidou-Metz, qui s'occupe de l'art le plus contemporain et de l'histoire de l'art du XXe siècle, de 1905 à nos jours, pour prendre les conventions habituelles, s'y passionne. Vous, nous vous connaissons à l'art et la matière, puisque vous étiez déjà venu pour nous parler de cette exposition magnifique qui s'appelait « Peindre la nuit » et dont le propos était de dire au moment où la nuit apparaît, ce n'est pas le jour qui finit, mais c'est quelque chose de nouveau qui commence. Et vous décriviez tout ça dans cette très belle exposition que vous avez eu la gentillesse de venir commenter ici. Et vous venez nous parler de cela au moment où vous avez en même temps dans le Centre Pompidou-Metz plusieurs expositions très passionnantes. Alors, il y en a trois autres, j'en cite que deux parce qu'on peut pas parler de tout. Susanna Fritscher, une extraordinaire artiste, une exposition, un environnement de toute beauté, une artiste qui vit en France et qui avait été révélée lors de la Biennale de Lyon il y a 4 ans. Et je dois dire que l'exposition est absolument sensationnelle. Bravo. Et une autre exposition, bravo à toute l'équipe du Centre Pompidou-Metz et je pense également à l'actuelle présidente du Palais de Tokyo qui en était l'initiatrice. Et bravo aussi pour l'exposition, comment s'appelle-t-elle, avec Yves Klein, autour d'Yves Klein ?
Le ciel comme atelier.
Magnifique exposition. Donc il y a beaucoup de raisons d'aller au Centre Pompidou. Donc, puisque nous parlons de l'essentiel, Marie-Charlotte, racontez-nous. J'ai compris que le Jean-Marie va essayer dans l'émission de prétendre que le folklore, auquel vous êtes passionné, les traditions populaires, les arts et traditions populaires, ont eu une influence déterminante sur le XXe siècle et sur l'invention de la radicalité. Mais le folklore, d'abord, qu'est-ce que c'est que ce mot? Mais surtout, ça commence quand? Quand est-ce qu'on a commencé à avoir un intérêt sérieux organisé pour le folklore? Si des artistes commencent à se passionner pour ça, c'est que quelqu'un le révèle. Ça s'est passé comment?
Alors, le folklore est un mot qui naît en Angleterre en 1847. Et folklore signifie les savoirs, l'ensemble des savoirs du peuple. À partir de là, ce que l'on constate, c'est que toutes les personnes qui se sont dites folkloristes ne se sont pas accordées sur une définition du folklore. Comme on n'a pas une définition simple de la nation, on n'a pas une définition simple du folklore. Et il est assez passionnant de voir justement toute la prose autour de ça, à la fois en France mais aussi en Europe, avec des folkloristes qui ne s'accordent pas à la fois sur les domaines du folklore, mais aussi sur finalement la méthode que doivent employer ces folkloristes. Pour autant, ce qui émerge, c'est qu'ils se disent héritiers de certains mouvements, des romantiques, des Lumières en particulier, et ce qui les réunit, c'est cette intérêt pour le peuple, en plein mouvement aussi de la montée des nationalismes, de là cette création des nationalismes.
Ça, donc, à la fin du XVIIIe siècle, on parle de la fin du XVIIIe siècle.
En fait, il s'inspire, quand le mot naît, de courants du XVIIIe. Et derrière, j'allais dire, ils se construisent parallèlement, du coup, à cette création des nations au sein du XIXe siècle et parallèlement à tout ça, il y a des manifestations comme les expositions internationales, les expositions universelles, où les nations vont se présenter. Et quand elles vont donner une identité, elles vont aussi réfléchir à, finalement, leur folklore. Quelle est la spécificité d'un peuple, d'une nation? Qu'est-ce qui les réunit? Bien évidemment, ça va passer par la langue, l'architecture, le costume. Et on va petit à petit faire émerger ça comme une discipline dont l'âge d'or se situe dans les années 30.
Là, vous parlez de 20e siècle, 1930. Quand vous dites les années 30, c'est 1930?
Tout à fait, 1930.
Moi, j'aurais pensé que c'était bien antérieur et qu'il y avait une influence des conteurs, je pense aux contes de fées, par exemple, oui.
Disons que eux sont les premiers initiateurs de cette dynamique, cet intérêt pour l'oralité, l'immatérialité. Mais le folklore réuni dans des sociétés savantes, se positionnant comme des folkloristes, sont des savants, voire demi-savants, hein, pour reprendre l'expression d'Arnold von Genep, un des grands folkloristes du XXe. Ces personnes ne se réunissent pas par un savoir universitaire, disciplinaire. Il n'y a pas de diplôme de folkloriste.
C'est des érudits de province, comme on disait autrefois.
Oui, c'est ce qui les réunit beaucoup.
Des sociétés savantes, en fait.
Ils sont réunis par des sociétés savantes, par des manifestations, des soirées, comme les soirées de la Merloie. Ils vont aussi se retrouver dans des revues qui émergent tout au long du XIXe siècle. On a Mélusine, par exemple. Et donc, ils ont un œil réellement nouveau sur un champ dont, encore une fois, les contours sont très larges, mais dont ils font émerger le potentiel.
Alors, avant de d'interroger Jean-Marie sur comment ça va avoir un impact sur les artistes, évidemment, puisque vous parlez d'Arnold von Genep, je sais qu'en 1924, il a fait un commentaire, et justement, Nathalie, vous êtes là comme notre actrice. Vous devriez être à Avignon grâce à ce désastre. Vous êtes avec nous. Donc j'en suis ravi. Est-ce que vous voulez bien nous dire ce que dit Arnold von Genep?
Quiconque veut s'intéresser au folklore doit donc abandonner d'abord l'attitude historique pour adopter l'attitude des zoologistes et des botanistes qui étudient les animaux et les plantes de leur vivant et dans leur milieu lui aussi vivant. Donc remplacer la méthode historique par la méthode biologique. Cette observation est d'une importance extrême. Elle explique pourquoi les historiens ont longtemps méprisé le folklore et pourquoi les meilleurs folkloristes du siècle dernier ont été des naturalistes, des géologues, des biologistes, des peintres, des artistes en général, ou du moins des savants ayant possédé le don d'observation directe autant que le don qui caractérise l'érudit.
Alors il y a quelque chose, merci Nathalie, il y a quelque chose qui est assez frappant, c'est que il met le folkloriste, lui fait frôler le statut d'artiste, n'est-ce pas ?
Oui, tout à fait, c'est ce qu'on fait d'ailleurs dans le catalogue comme réponse avec un article de Jean-Marie qui pose la question de l'artiste en folkloriste. Et mon essai est l'inverse, c'est-à-dire le folkloriste en artiste. Ce qui est beaucoup plus finalement difficile à traiter dans le sens où beaucoup d'entre eux ont plutôt rejeté cette part de création pour se dire découvreur, pour le donner à voir de manière transparente, sans justement montrer qu'ils avaient à travers leur collecte de savoir une part créative, pourtant qui est réelle. Et ils ont du coup plutôt pris la position des savants. Ils ont essayé du moins de se donner des méthodes.
Mais alors Van Gennep, c'est vraiment un savant. Et c'est une personne qui a beaucoup d'importance dans le catalogue. En tout cas, il y a une très belle photo de lui où on le voit allumer le feu de la Saint-Jean.
Oui.
Et quand on le voit allumer le feu de la Saint-Jean, on se rend compte que c'est un rituel qu'il observe, mais qu'il y participe et qu'il est dans la foi païenne, si j'ose dire, que cela représente.
Exactement, il ravive aussi les feux de la Saint-Jean. Il fait partie d'un appel lancé à l'époque par le Musée des Arts et Traditions Populaires pour voir où continuent à se lancer des feux de la Saint-Jean. Et Van Gennep, justement, va faire beaucoup utiliser la carte pour s'interroger comment on fait à quelle époque et selon quel rite les feux de la Saint-Jean, comment, par exemple, on mange une crêpe ou une bugne dans la carte de France, comment on l'exploite avec la langue et comment on l'utilise, etc. Donc lui, carte vraie, enfin, il y a des archives colossales de ces folkloristes qui sont en fait un potentiel poétique incroyable et en même temps une démarche sans fin d'une quête finalement de collecte qui semble à un moment dériver vers une forme de folie.
Alors Jean-Marie, cette construction d'un savoir nouveau, d'une observation avec les contenus politiques, mais au sens noble pour une partie, ou en tout cas pour un moment, c'est-à-dire le peuple est créatif et a une pensée poétique extrêmement forte. Comment est-ce que ça frappe les artistes ? Comment est-ce qu'on le sent ? Comment est-ce que vous le faites apparaître dans l'exposition ? Qu'est-ce que vous avez repéré ?
Alors déjà, ce qui a été lu de Van Gennep tout à l'heure, il y a, je pense, une clé à la fois très simple et en même temps essentielle, c'est l'idée du vivant. Le folklore, quand on le regarde même aujourd'hui, on le met souvent du côté du quelque chose de l'ordre du passé, de la tradition, quelque chose presque éteint. Les artistes, eux, vont très tôt y déceler quelque chose de l'ordre de ce vivant, cette définition biologique du folklore comme une matière, quelque chose très profondément enfoui, qui tout d'un coup ressurgit lors de certaines cérémonies, de certains rituels, ou aussi dans des régions reculées dans lesquelles ils vont se rendre. Ça commence en fait assez tôt, nous dans l'exposition, parce qu'on est au Centre Pompidou-Metz, au MUCEM, on va se concentrer essentiellement sur le XXe siècle avec une petite introduction fin du XIXe siècle, assez capitale en Bretagne, avec les Nabis en Bretagne, Sérusier, Gauguin, Émile Bernard et certains autres qui vont aller trouver une inspiration dans cette Bretagne sauvage, c'est comme ça qu'ils la décrivent. Mais il y a dans le catalogue un essai de Manuel Charpie assez passionnant qui nous montre comment en fait on peut remonter tout au long du 19e siècle. Il y a une imbrication folklore, tourisme et art qui est assez passionnante. Nous, on a décidé donc de commencer un petit peu plus tard. Pourquoi ? Parce que là s'amorce véritablement un nouveau langage, le langage de la modernité. Ce langage-là, on l'a très souvent, pour simplifier un peu les choses, catégorisé comme quelque chose de l'ordre de la rupture, table rase du passé. On veut tuer le père pour inventer quelque chose de nouveau. On va signer aussi, on parlait de signature anonymale. Là aussi, il y a quelque chose, il y a un enjeu dans la signature, l'individu qui va signer quelque chose de matériel, un tableau, une peinture, etc. Et le folklore, lui, a priori, c'est l'opposé. C'est le domaine de l'immatériel, c'est le domaine du collectif et surtout c'est le domaine de la continuité. De génération en génération, les choses se transmettent. Et il suffit pourtant de regarder ce que le folklore a pu apporter à quelqu'un comme Gauguin, quelqu'un comme Sérusier, mais aussi un autre grand pionnier de l'abstraction en peinture comme Vassili Kandinsky et sa femme Gabrielle Münter, ou bien un grand pionnier de la sculpture moderne et de la radicalité en sculpture de la forme pure qui est Constantin Brancusi, eh bien, l'exposition montre, par des juxtapositions, notamment entre les collections du MUCEM et les collections du Centre Pompidou, à quel point l'art de Brancusi, ce sommet de la modernité, de la pureté des formes, eh bien, se nourrit de contes populaires comme l'oiseau Maiastra, l'un de ses thèmes de prédilection, mais aussi la tradition du bois, la sculpture sur bois de sa région natale qui est l'Olteni, qui va de la petite cuillère au porche monumental de ferme et qui va totalement le fasciner et qu'il va essayer de retrouver à travers ses formes.
Alors on va écouter quelques extraits de textes comme ça de l'un et de l'autre. Écoutons peut-être Gauguin. Nathalie, est-ce que vous voulez bien nous lire un petit passage de Gauguin dans sa fameuse lettre à Schuffnecker ? Nous sommes
plaisir.
En 1888. Hein.
J'aime la Bretagne. J'y trouve le sauvage, le primitif. Quand mes sabots résonnent sur ce sol de granit, j'entends le son sourd, mat et puissant que je cherche en peinture.
On entend bien et on voit, d'ailleurs il y a des sabots dans l'exposition, on entend le son que recherchent les artistes. Mais est-ce que la Bretagne n'est pas déjà folklorisée quand Gauguin y va vers 1880?
Alors oui, tout à fait. C'est-à-dire que la Bretagne est déjà reconstruite en fait par une partie des folkloristes qui vont même recréer des fêtes locales, qui vont figer le costume breton, le travailler, le donner en image sur un document qui circule, il faut imaginer à quelle échelle, qu'est la carte postale à l'époque. Et donc on va créer une dynamique réellement touristique tout en disant l'inverse. C'est-à-dire on considère la Bretagne comme une quête d'un territoire reculé où effectivement on va voir le primitif et le sauvage.
C'est l'image de l'authenticité à ce moment-là. Mais
exactement.
Évidemment c'est une authenticité qui est déjà vers 1880 reconstruite en fait.
Tout à fait. Et c'est d'ailleurs en fait ce rapport en fait qu'entretient la discipline et les personnes qui la construisent. Et pour ça assez fascinant, c'est-à-dire qu'on est dans une quête d'authenticité tout en ayant d'ailleurs comme approche souvent d'aller voir les personnes âgées dans des terrains les plus reculés et essayer d'aller vers ces rares témoins pour à nouveau reconstruire quelque chose.
Alors on sent bien ce qui les fascine quand on écoute par exemple, il y a Maurice Denis qui écrit à propos de Sérusier quelques mots. Nathalie Canoui, est-ce que vous pouvez avoir la gentillesse de nous les lire?
Sérusier évoque les princesses de légende à la fois monastiques et rustiques. Images d'un passé fabuleux, figures de grâce hiératiques qui font penser à ces cantilènes grégoriennes, à la mélancolie des chansons populaires ou des airs de danse qu'on entend encore dans des coins reculés de la Bretagne.
Alors quand j'entends cela, Jean-Marie, je pense qu'il y a bien sûr une recherche d'authenticité, mais il y a aussi une opposition peut-être entre une adhésion au mystère païen, si je puis dire, par opposition à la puissance de l'Église, etc. C'est l'autre versant, non?
Absolument. Alors on sent que ça les travaille, cette question de l'authenticité, ces artistes, dès le début, effectivement. On parlait de cette paire de sabots sculptés. Cette paire de sabots, c'est un prêt assez exceptionnel, ça n'a jamais été montré jusqu'ici. Ce sont des sabots sculptés par Émile Bernard.
Et Émile Bernard, c'est le fondateur du regroupement des artistes en Bretagne. En
absolument,
fait, hein.
C'est lui qui va faire notamment se rencontrer Gauguin et Sérusier en 1888. Il y a comme un passage à l'acte, au-delà de simplement regarder ces traditions, il y a l'idée d'aller choisir un morceau de bois et d'aller tailler sa paire de sabots. Ils sont sculptés, donc il y a des motifs, ils sont peints. Il y a vraiment l'idée d'un retour à la taille directe aussi. C'est pas du tout la tradition de la sculpture. On sculpte du marbre ou bien on fait un moulage pour obtenir un bronze au 19e. Il faut bien se dire que ce passage à la taille directe du bois, il vient soit de ce que l'on appelle alors les arts primitifs et sinon, on le trouve en Bretagne sur les façades des Liclos, par exemple, ce qu'on voit dans l'exposition, ou bien sur ses sabots. Gauguin va sculpter au moins 4 paires de sabots. La plupart des artistes, Meyerdehan aussi, on retrouve ces paires de sabots. Donc tous vont avoir ce rituel, si je peux dire, de se tailler cette paire de sabots. L'autre chose, c'est que
ce que vous voulez dire, c'est que c'est un manifeste, en fait. C'est que j'appartiens dans c'est le monde des souliers qui arrive dans le monde des sabots, si je puis dire.
Absolument.
Et qui revendique ce retour à l'authenticité
Absolument, et les sabots, ça devrait être un jour une exposition, tellement le sujet, on le retrouve avec Marie-Charlotte, on a trouvé énormément de choses sur cet imaginaire du sabot.
C'est une menace sur le MUCEM, cette affaire.
Mais l'autre aspect intéressant, quand on regarde Sérusier, Paul Sérusier, donc pour la première fois, Émile Bernard lui dit « Viens en Bretagne, il y a quelqu'un qui s'appelle Gauguin, vous allez pouvoir vous entendre et il va t'apprendre beaucoup de choses. » Il y a la fameuse leçon du talisman, il y avait une très belle exposition il y a quelques temps au musée de Pont-Aven, puis à Orsay.
Un tableau quasiment abstrait qui est considéré comme une des icônes de la naissance de l'abstraction dans le monde symboliste.
Absolument, et qui aurait été peint par Sérusier sous la dictée ou les conseils de Gauguin. Sérusier, l'année suivante, va se dire, 1889, Pont-Aven, cette communauté artistique, il y a déjà trop de faux folklore. On sent que les Bretonnes portent un costume de cérémonie du dimanche, un peu tous les jours, contre une pièce pour les peintres, et notamment les communautés de peintres anglo-saxons qui sont installés là depuis pas mal de décennies déjà. Et ils vont se dire, allons un peu plus loin, voir s'il n'y a pas un village un peu plus authentique, et ils vont aller au Pouldu, un village un peu plus reculé. Sérusier, lui, quand on regarde un peu la chronologie, il va s'enfoncer de plus en plus à la recherche de quelque chose de l'ordre du mysticisme qu'il trouve en Bretagne. Il va aller voir une forêt druidique, Wellgwat, et là, justement, commence cette fascination pour quelque chose lié vraiment à une mystique païenne, et en même temps les pardons vont le fasciner aussi, donc il y a ces traditions chrétiennes très ancrées et il va essayer de faire une synthèse de tout cela, il va en même temps se passionner pour la Mésopotamie, l'Égypte ancienne et au final c'est une sorte de syncrétisme de toutes ces religions-là et ces paganismes-là qu'il va essayer de créer dans ces tableaux qui d'ailleurs ne sont pas des témoignages, à part certains comme le pardon à Châteauneuf, qui sont assez fidèles à ce que l'on pouvait voir lors des pardons, mais sinon c'est
le pardon à Châteauneuf, c'est celui qui est dans l'exposition.
Absolument.
Vous pouvez nous le décrire, ce tableau où on a flanc de colline les.
Exactement, c'est vu de la maison de Sérusier, donc on voit les vallées, c'est assez vallonné, Châteauneuf du Fou. On voit la petite église qui est sur le haut d'une colline, et puis une procession, donc le pardon, avec notamment une procession de jeunes filles en tenue cérémonielle avec des broderies et des brocarts très importants que l'on retrouve aussi dans les collections du musée, mais qui sont exposés à côté du tableau où là on voit une sorte de témoignage. Mais il y a un autre tableau juste en face qui s'appelle la guirlande de fleurs, tableau monumental, 2 mètres de haut, 2 mètres de large, et on voit quelques jeunes filles accrocher des fleurs, des roses à une grande guirlande de.
Ce qui d'ailleurs, je crois que vous me l'avez dit lorsqu'on a visité, ce qui d'ailleurs n'est pas exact du point de vue du rituel. Ou qu'une réinvention, probablement.
Voilà, on ne trouve pas de rituel qui correspondrait à l'idée de jeunes filles qui se regroupent pour faire des guirlandes de fleurs. Donc, sans doute, il y a une invention. On le voit d'ailleurs parce qu'à côté, on a trouvé dans les fonds du musée des cartes postales faites par les folkloristes, véhiculées par les folkloristes à l'époque. Ces cartes postales documentent le costume breton. Et on voit que, sur ce tableau, Sérusier prend le tablier de la région de Châteauneuf, mais il va prendre la coiffe de la région du Pouldu, où il était quelques années auparavant. Il va combiner les choses, donc il n'est pas dans une volonté d'être un folkloriste. Hein. Il va justement puiser dans le folklore quelque chose qui va le nourrir pour aller beaucoup plus loin et pour créer véritablement un art neuf qu'il va ensuite emmener vers quelque chose de beaucoup plus spirituel, notamment lorsqu'il est en lien avec l'abbaye de Beson. Et c'est une autre partie de son œuvre qui n'est pas abordée là dans l'exposition, mais qui va l'emmener vers quelque chose de très spirituel.
En fait, curieusement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il me semble, Marie-Charlotte, il me semble que tout ce folklorisme de l'époque est nourri d'un désir de spiritualité syncrétique. C'est comme s'il y avait flottait dans l'époque un intérêt pour voir ce qu'il y a de commun à toutes ces religions, à toutes ces s'il n'y a pas un fond d'origine, un ur. Il n'y a pas quelque chose comme ça dans
c'est
ce folklorisme.
C'est très juste et c'est pour ça que certains d'entre eux ont parlé d'archéocivilisation, c'est-à-dire qu'ils voyaient dans les objets folkloriques un lien avec des objets de la préhistoire. Et ce qu'on voulait dire à travers ça, effectivement, c'était puiser des origines les plus anciennes et les plus nobles pour essayer de réunir une nation. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on voit que les folkloristes, qui sont pour beaucoup basés à Paris, mais on a des équivalents locaux dans toutes les régions, nourrissent les expositions internationales, les collections du musée d'ethnographie du Trocadéro qui s'ouvre fin 19e. Et en fait, ils ont cette démarche-là dans les expositions internationales de mettre à côté d'une faucille bretonne toutes les faucilles du musée d'archéologie de Saint-Germain-en-Laye, parce qu'on va réunir à travers un objet du quotidien qui représente le bon manouvrier, l'ensemble de la nation. Dans sa diversité, on la réunit. Et l'objet folklorique, c'est vraiment cette création-là. Et la Bretagne, pour revenir à la Bretagne, c'est un terrain où on voit un Lionel Bonnemère, qui est un de mes folkloristes préférés, qui a collecté 3000 objets, amulettes, etc. Il s'est nourri de la Bretagne et a fait émerger... par exemple, des rites qui n'expliquent pas forcément beaucoup, mais en tout cas, ils en témoignent.
Il y a une très belle vitrine consacrée à cela, oui. Qui est quasiment un cabinet de curiosité, si je puis dire. Hein, et dans lequel il y a beaucoup d'objets bretons, beaucoup d'objets aussi provençaux, camarguais, etc. Mm. Et il y a une petite bouteille qui m'a bien amusé. J'aimerais bien que vous expliquiez ce que c'est. J'ai vu une petite bouteille, une fiole avec quelques noyaux à l'intérieur, de cerises peut-être.
Tout à fait. En fait, lui, il parle d'ailleurs de pépins de cerises. Il s'est loupé sur ce type. Mais bon, bref, c'est trois noyaux de cerises.
Il n'est pas naturaliste.
Et à côté de ça, il écrit tout ce qu'il collecte autour de ces objets. Et en fait, il explique avoir collecté ces noyaux de cerises auprès des jeunes filles qui habitent dans une région reculée de la Bretagne, qui se déplacent dans un carrefour dans l'objectif d'une divination amoureuse, pour savoir où est-ce qu'elles vont pouvoir prétendre trouver leur futur époux. Donc ça veut dire quelque chose aussi, qui est ces territoires un peu refermés quand même, doivent aller un peu chercher le prétendant.
Alors,
ailleurs.
J'invite auditeurs et auditrices au mois de juin prochain de se saisir des noyaux de cerises et de les lancer pour savoir.
Alors après, il y a un petit champ. Il y a pépin par ici, pépin par là. La manière dont il tombera indiquera le chemin du prétendant.
Il y a comme toujours une comptine, ce sont les paroles magique en fait.
Tout
faut
à
avoir.
Fait.
Alors, on va voir ce qui se passe ailleurs parce que il faut qu'on voit les autres époques et il faut qu'on voit l'eau de la géographie parce que, alors il y a une géographie qui est alternative entre l'Alténie et la France et c'est Brancusi. Écoutons ce qu'il dit, lui, de cette relation à cet archaïsme qui est contemporain.
Maria, je pourrais sculpter pour chacune de tes chansons un oiseau maïastra. J'ai voyagé partout dans le monde. Le monde sait désormais ce que je sais faire. Mais quand j'entends tes chansons, j'ai le mal du pays. Pour tes Olténiens et les miens. Pour les cours d'eau rugissants de Jiu. Pour mon hameau. Je suis soudain pris du désir de tout laisser derrière moi et de rentrer au pays comme sculpteur sur bois ou tailleur de pierre afin de tailler les colonnes des porches des fermes et les tables pour les paysans.
Alors Jean-Marie Gallet, il y a une phrase dans l'exposition qui est adressée à Brancusi et qui dit quelque chose comme « Il est le plus contemporain mais le plus ancien tout à la fois ». Et en fait, il y a cette tension entre l'ultra-contemporain et l'ultra-ancien, et le très archaïque chez Brancusi. Et vous pourrez nous dire ce que c'est que l'oiseau maïastra par la même occasion.
Oui, alors... Effectivement, Brancusi lui-même le dit, il y a un moment où on lui demande un peu, mais finalement, qui est Brancusi? Est-ce que vous êtes un sculpteur cubiste? Et il répond, je ne suis ni cubiste, ni baroque, je suis rien de tout cela. Moi, avec mon nouveau, je viens de quelque part de très très ancien. Et il y a vraiment cette idée d'un artiste qui va apporter la nouveauté en creusant dans le passé enfoui. Et c'est une personnalité très complexe. Alors, il y a beaucoup d'experts sur le sujet qui pourraient en parler des heures, mais c'est assez fascinant parce que, par exemple, Mircea Eliade dit de Brancusi qu'il a compris l'art roumain et toute cet art ancestral du bois, notamment, une fois qu'il a regardé l'art africain et l'art océanien qu'il voit au même moment dans les musées. Ça, c'est une autre chose
assez
fascinante.
Cette simultanéité est très importante. Alors, vous ne l'avez pas traité puisque vous avez délibérément, pour ne pas être débordé, si je puis dire, traité l'Europe. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier cette simultanéité de l'apparition de des grandes traditions.
Absolument, et c'est à mettre au même niveau d'ailleurs, parce qu'on a vu finalement pas mal d'ouvrages et d'expositions assez remarquables sur le sujet, justement de l'influence de l'art africain, l'influence de l'art océanien sur toute la modernité. On a a priori peu vu l'autre influence qui est celle du folklore, justement ce qu'on essaye de démontrer dans cette exposition. Pour revenir à Brancusi, Maïastra, Maestra, en fait, c'est un motif d'un oiseau. L'oiseau de feu, alors c'est pas l'oiseau de feu de Stravinsky, mais c'est pas très loin, c'est la version russe, c'est une légende très ancienne en Roumanie.
Cela dit, vous avez tout à fait raison de parler Stravinsky, parce que c'est l'influence de ce dont nous parlons sur Stravinsky, et évidemment sur l'après-midi d'un faune, sur l'invention de la danse moderne, hein, vraiment, elle est là aussi.
Et le Sacre du printemps, qui est sous-titré Tableau de la Russie païenne.
J'aurais dû parler d'abord du Sacre du printemps,
deux actes, d'abord la cérémonie à la terre, et puis ensuite le sacrifice. Il y a vraiment quelque chose
avec les très beaux dessins
de Nicolas Rerich,
qui ont fait la couverture de votre catalogue et de l'affiche également, non?
Alors, l'affiche et le catalogue, c'est très proche, mais c'est Goncharova, Natalia Goncharova. Ah. C'est aussi pour un ballet russe. Les ballets russes, comme d'ailleurs les ballets suédois, vont s'emparer de ce sujet. Ça, c'est extrêmement présent tout au long de leur activité. Et Natalia Goncharova, avec Mikhail Larionov, son mari, ils vont tous les deux être des acteurs assez importants de cette histoire, du lien entre l'avant-garde et le folklore en Russie, parce qu'ils vont notamment créer un groupe qui s'appelle le néo-primitivisme. Et il y a pour eux l'idée aussi, dans le fond, on a dit que les artistes, finalement, eux, voyaient quelque chose de beaucoup plus universel, global dans le folklore que un aspect identitaire. Là, il y a quelque chose qui va nuancer un peu cela, c'est que Larionov et Goncharova se disent, dans les années 10, l'avant-garde a lieu à Paris, c'est Picasso, Braque, etc. Et eux sont très connectés à ce monde-là et se disent, il faut que nous, on fasse ressentir aussi une âme russe et qu'on ne participe pas à cet art qui va s'internationaliser où tout va se passer à Paris et va être un art détaché des connexions
au territoire. Un art qui, d'ailleurs, avait tendance à devenir international à ce moment-là et donc il fallait trouver l'autre voie.
Absolument.
Alors,
l'autre voie passe par l'observation d'un art russe de tradition païenne, qu'on imagine en tout cas, qu'on fantasme parfois, à partir de travaux de folkloristes, en partie faux, hein, il y a aussi ça, en partie en tout cas sclérosé, figé. Mais l'idée de s'emparer quand même du petit fil rouge de ce vivant, justement, dans ce folklore, pour pouvoir régénérer les choses. L'idée de régénérer le monde à partir du folklore est quelque chose qu'on trouve régulièrement, et notamment après-guerre. Cette idée de la régénérescence, c'est aussi un fil rouge de l'art après 45. On le trouve chez Joseph Beuys, on va le trouver aussi dans le groupe Cobra. Et il y a vraiment l'idée de revenir aux racines, revenir au fondement.
Alors, dans les grands musées d'ethnographie ou dans les grands savants, si je puis dire, il y a tous ceux qui travaillent en Allemagne, puisque le plus grand musée d'ethnographie à l'époque est à Berlin, je suppose. Et peut-être est-ce que ça a une influence ou peut-être pas. Mais en tout cas, Gabriel Munter et Kandinsky ont une réception extraordinairement forte de ces traditions populaires. Écoutons ce que dit Gabriel Munter, qui vit avec Kandinsky, et qui est une grande artiste, tout autant que lui.
Avant tout, c'est l'art populaire qui m'a montré la voie. En particulier la peinture sous verre paysanne qui s'épanouissait autour du Staffelsi, avec sa simplification des formes et l'usage de couleurs vives cernées de sombre.
Alors j'aimerais bien, Nathalie, que vous nous lisiez également ce que dit Kandinsky. On va le mettre en miroir et on va se rendre compte de la révolution qui est en train d'avoir lieu, puisque vous nous le direz sans doute, Jean-Marie, mais il y a dans l'almanach du Blaureiter, la grande revue d'avant-garde autour de cet expressionnisme, évidemment, ses références.
Je n'oublierai jamais les grandes maisons de bois couvertes de sculptures. Dans ces maisons magiques, j'ai vécu une chose qui ne s'est pas reproduite depuis. Elles m'apprirent à me mouvoir au sein même du tableau, à vivre dans le tableau. C'est à travers ces impressions vraisemblablement, et non autrement, que prit corps en moi ce que je souhaitais, le but que je fixais pour mon art personnel.
C'est très important, évidemment, que cette personnalité considérable pour l'invention de la modernité, ce géant comme ça de l'invention de la modernité, explique et ça justifie votre exposition, Marie-Charlotte Calafat, donc explique que c'est déterminant pour son art personnel, donc pour toute l'histoire de la modernité. Quel était le Marie-Charlotte, quel était, parce qu'on a tendance à parler de la France, évidemment, mais le savoir, l'intérêt pour le folklore, il était européen, effectivement.
Alors, il était tout à fait européen, et à vrai dire, les premiers qui ont véritablement fait émerger une dynamique, je les situerais en Suède. En tout cas, c'est ce qu'on lit avec l'exemple d'Azielus et le musée de Skansen, qui est une forme très intéressante de musée de plein air avec de l'architecture traditionnelle et du vivant, justement, puisqu'on a des personnes qui réactivent un savoir-faire et qui sont finalement les comédiens face à nous pour vivre comment on tisse, comment on fait la cuisine, etc., comment on souffle le verre. Ça, ça a été du coup fin 19e, un boom incroyable qui a révolutionné véritablement la question du musée. Donc là, il y avait quelque chose avec le musée vivant. Et quand on a ce premier congrès international du folklore, il faut savoir qu'il se situe tardivement, finalement, à Paris en 1937, parallèlement à l'exposition internationale de Paris. Et qu'est-ce qu'on fait ? On fait au Musée de l'Homme qui vient d'être créé, qui vient de faire table rase de l'ancien palais du Trocadéro, dans le palais de Chaillot, on fait une exposition de l'art folklorique de la Suède. La Suède est donc un exemple très intéressant d'un point de vue muséographique. Après, on connaît aussi les sources qui ont inspiré, qui ont beaucoup voyagé en France et en Europe avec la figure de Georges-Henri Rivière, qui était donc le premier directeur du Musée des Arts et Traditions Populaires. Le
qui
premier
a été inspiré par le modèle suédois, si je puis dire.
Tout à fait, oui. Il s'y est rendu, il a eu des liens avec Azielus. Il a été aussi inspiré beaucoup par les musées soviétiques. Ce qui fait que l'exposition internationale de 37, il y a un format assez intéressant qui est pensé, qui s'appelle le musée du terroir. Donc là, on prend un cas, le musée du terroir de Romney, et les Allemands qui vont s'y rendre vont considérer que c'est un très mauvais exemple, parce que justement trop inspiré du cas russe. Donc, dans les années 30, tout ça se passe. Le folklore, c'est son âge d'or et chaque pays a aussi une conception des musées et le rôle du musée de la dent et de la constitution de ses collections et de la manière de transmettre ce vivant, effectivement au cœur de débats et de polémiques.
Alors ce qui est curieux, je ne sais pas ce que vous en pensez Jean-Marie Gallet, mais l'exposition objectivement aborde la question avec beaucoup de franchise. À la fois cette découverte du folklore, même si le mot reste très imprécis, et d'ailleurs c'est très amusant, dans la première salle apparaît un objet curieux dont vous nous parlerez, mais à la fois ça libère et ça donne une indépendance, une liberté, une sauvagerie, une qualité poivrée, si j'ose dire, à la création de cette époque-là, et en même temps, c'est la récupération politique qui est derrière. En fait, tout ça, c'est la naissance du nationalisme avec ses travers qui ne vont pas tarder.
Oui, bien sûr. Et les artistes, tu trouves parfois un peu au milieu de tout ça, instrumentalisés aussi. C'est une des salles de l'exposition où on pouvait pas faire cette exposition sans parler de ça, parce que c'est fondamentalement lié à l'histoire du folklore. On trouve même d'ailleurs des choses dans les collections, et tout ce qu'on montre dans cette salle vient des collections du MUCEM aujourd'hui. C'est pour le cas de la France.
Quand vous dites ça, ça veut dire qu'elles ont été recueillies et données comme des témoignages de cette période très compliquée qui est la montée des nationalismes dans les années 30 et en particulier en France.
Et le régime de Vichy, avec notamment des objets à la gloire du maréchal Pétain qui sont soit des céramiques, des santons de Provence par exemple, et puis tout l'usage aussi que Pétain fait de l'imagerie populaire ou bien la chanson populaire, mais l'imagerie, il va même ressusciter presque des ateliers d'images comme on en connaît à Limoges ou Épinal pour sa propagande. Et l'exposition montre par exemple un cycle d'images à la gloire du maréchal Pétain où il va notamment utiliser toute la métaphore de la terre, du bon paysan. Et ça, c'est le moment où le folklore sert totalement un discours, mais le plus paradoxal, c'est ce qu'on voit sur le mur d'en face, c'est-à-dire que quelques années auparavant, c'est à l'opposé le Front populaire qui va mettre en avant le folklore, notamment à l'Expo internationale de New York en 1939, où dans le pavillon de la France, l'expo s'appelle Le Monde de Demain. Il y a toute une section consacrée, avec notamment déjà une visée touristique aussi, hein, mais toute une section consacrée à des enquêtes sur la farandole à Barbantane, petit village de Provence. On va découvrir le folklore français au sein de cette énorme World Fair à New York.
Incroyable que dans la ville de la modernité, une des villes du jazz, si j'ose dire, la France s'affiche avec la farandole, qui est une très jolie expression d'ailleurs, hein, mais tellement anachronique par rapport à l'époque.
Et en plus, il faut ajouter à ça que le sujet de cette exposition était la construction du monde de demain. Donc c'était un pied-de-nez incroyable.
Marie-Charlotte Cavafat, vous avez raison de dire ça, c'est incroyable.
Oui. Et c'est effectivement, alors il n'y avait pas que les farandoleurs de Barbantane dans les Bouches-du-Rhône de présenter, mais il y avait aussi le luxe, la gastronomie française, enfin tout ce qui peut aussi engendrer du tourisme. Ce qui était intéressant dans le cas de Barbantane, c'était effectivement déjà que quand il est étudié, c'est vraiment le tout début du Musée des Arts et Traditions Populaires qui envoie donc étudier à la fois cette danse évoquée par Mistral comme ayant des réminiscences très lointaines.
Pour Mistral, c'est des réminiscences grecques. Pour d'autres, c'est des réminiscences locales liées au mouvement du Rhône. Enfin, il y a beaucoup de traditions.
Il y a énormément de choses autour de cette question de la farandole. Et à Barbantane, il y a un cas intéressant, c'est qu'il y a deux groupes de farandoleurs. Et finalement, c'est déjà aussi une association politique intéressante, parce qu'un est plus proche et sera plus proche de l'Action française, et l'autre est beaucoup plus modéré. Et ça traduit aussi tout ce qu'on va voir avec l'entreprise de folkloristes qui vont un peu sur les échiquiers politiques de gauche à droite.
Marie-Charlotte, lorsque vous laissez entendre avec Jean-Marie, à juste titre, que évidemment se montrer avec la farandole pour imaginer le monde de demain est un anachronisme et un malentendu extraordinaire, mais en même temps, tout ce qui va se passer sur le tourisme anecdotique, sur le tourisme, sur la tradition, etc., et ce qui va faire la richesse du tourisme traditionnel, si je puis dire, même s'il est un tourisme réinventé, ça va être ça. Au fond, c'est une action touristique de bonne qualité.
C'est même comme c'est en fait, que le défend Georges Henrière, qui est le commissaire de l'Expo. Il dit, en fait, il y a une mécanisation à outrance qui fait que demain, il faudra qu'on revienne à des formes plus proches, plus humaines.
Mais qui, au fond, vont être des formes très réinventées. Et dans l'exposition, vous abordez cette question, Jean-Marie.
Oui, d'ailleurs, la salle juste après, ouais. On fait un bond dans le temps, on sort aussi de la géographie franco-française pour aller voir le cas de la Suisse, pays du folklore.
Le chalet suisse, les chalets suisses.
Les chalets suisses, les coucous suisses. Aussi une vidéo d'une artiste anglaise qui s'appelle Mélanie Manchot. Et on voit dans cette vidéo, en fait, différentes personnes prendre la pause pour devenir suisse, quelques secondes pour l'objectif d'un appareil photo. Et on se rend compte qu'en fait, ce sont des quarts de touristes asiatiques, par exemple, qui vont aller dans ce studio photo. La caméra est posée comme une sorte de témoin. Et puis on entend quelqu'un qui est là pour construire une image. On entend en fait la photographe qui tient ce stand photo et qui demande aux touristes en anglais de prendre la pose un peu plus à droite, un peu plus à gauche, que tel instrument se tient comme ça. Puis là, la caméra zoome sur l'instrument. On s'aperçoit qu'il est tout en plastique ou tout en bois. C'est un faux accordéon, c'est un faux corps des Alpes. Les costumes sont totalement faits de pacotille aussi. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Et surtout, à un moment, la caméra va dézoomer. On se rend compte que ce stand photo pour touristes se trouve en haut d'une montagne magnifique, mais on ne pose pas devant la montagne. Pour être sûr d'avoir le beau temps qui va faire la carte postale de l'image suisse, on va dans le studio photo s'enfermer pour construire cette image artificielle. Et cette pièce très belle montre bien le devenir touristique de cet imaginaire folklorique, la manière dont on construit une image. Et il y a un penchant beaucoup plus critique aussi qui est utilisé par les artistes. Alors il y a des artistes en Suisse comme Valentin Caron qui vont beaucoup critiquer cet aspect trop lisse de l'image suisse que l'on veut vendre comme ça à l'étranger.
Qui est lui-même suisse, hein, donc c'est un artiste
qui est lui-même suisse, qui vient du Valais, absolument.
et qui mime dans ses sculptures les décorations traditionnelles suisses de l'ours en bois.
L'ours sculpté à la tronçonneuse dans la station de ski, ou bien la pergola, qui est aussi un élément de l'architecture du chalet suisse.
Il y a un élément en ferronnerie qui est très beau, vous pourriez décrire.
Et voilà, alors, et surtout ce qui est intéressant, c'est que quand il refait ses objets, il les fait en résine très chimique et qui assume une artificialité totale au premier coup d'œil. Et effectivement, il y a aussi un signe qui est un signe en fer forgé, accroché au mur, comme ça, qu'on a décroché d'ailleurs d'une école d'art en Suisse qui a bien voulu s'en séparer quelque temps pour l'exposition. Ce signe, c'est tout simplement le nom des chalets. Dans le Valais, il y a cette tradition de donner un nom au chalet et puis de demander au forgeron de mettre en forme ce nom. Et on met cette plaque, comme ça, le nom du chalet est accroché sur la façade. Valentin Caron va voir le forgeron d'un village et lui dit « J'aimerais que tu forges le mot « authentique ». Comme si c'était pour une maison, mais je ne te donnerai aucune indication stylistique. Pour que ça soit authentique, il faut que tu le fasses comme tu le ferais, toi, en tant que forgeron, depuis des générations installé dans ce village, faisant toujours cette tradition des noms de chalets. Il va simplement lui dire, authentique, tu l'écriras avec un K. Et ce mot, donc authentique, qui apparaît comme une signature, comme ça, sur le mur de l'exposition, il y a tout d'un coup cette fausse note qui arrive, mais qui... il y a des strates de lecture dans cette œuvre, parce que authentique, c'est aussi le nom d'un album de NTM. Et Valentin Caron, c'est aussi quelqu'un qui nous dit « Mais tout le monde pense à la Suisse avec l'image de carte postale. Il y a une jeunesse en Suisse qui écoute du rap et le même que vous. Et NTM existe aussi dans les montagnes du Valais, entre les sonnailles des vaches et les petits chalets idylliques dans les montagnes. Il y a aussi une culture urbaine qui est arrivée jusque-là. » Donc c'est une pièce, un retournement un peu comme ça. Mais on en trouve d'autres. Il y a André Dani, un artiste albanais, qui va utiliser des petites statuettes qui sont le souvenir, l'objet emblématique d'Albanie, des petites statuettes de personnages en costume traditionnel censés être albanais. Il se rend compte que l'histoire du costume national ou régional est très fortement stéréotypée, et notamment par les folkloristes, justement, à la fin du 19e, qui ont besoin de dire telle région a tel costume, mais tout ça est en partie très simplifié ou faussé. Et lui va décider de poncer. Donc on voit une vidéo, c'est une pièce de la collection du Mucem d'ailleurs, on voit une vidéo où il est en train d'effacer le costume et il reste une très belle installation de ces petites céramiques, ces petites terres cuites qui ne sont plus qu'en terre. Et pour lui, la terre, le personnage, ça, c'est quelque chose qui vient d'Albanie, mais pas le costume qu'on a plaqué dessus.
Oui, donc il y a une sorte de, comment dirais-je, de la part des artistes, il y a un regard, au fond, ils ont perdu leur innocence. Et ils essayent de préserver la perte d'innocence face à cela. Ils sont extraordinairement lucides. Alors, c'est le cas de certains. D'autres, comme Beuys, restent dans la fascination, qui sont des immenses artistes. Peut-être d'ailleurs, Nathalie Canouy, est-ce que vous pouvez nous lire la petite phrase que Beuys formule en 1974 dans son entretien avec Caroline Tisdale ?
Dans le folklore, je trouve une forme de compréhension pour le futur et une appréhension plus moderne de ces pouvoirs qui existent dans la mythologie.
Alors il y a d'un côté ceux qui vont prendre le caractère archaïque, très puissant, presque chamanique au fond, et de l'autre ceux qui vont être plutôt du côté de une dénonciation avec une certaine bienveillance, parfois, et parfois plus dure. Je pense par exemple, je ne sais pas si vous en souvenez, Marie-Charlotte, il y a une très curieuse action qui a eu lieu, des artistes en Suisse justement, qui font une cérémonie autour d'un arbre coupé. Vous pouvez nous raconter cette histoire ?
C'est le projet Bloc, effectivement, où là on est sur une formule de recréation dans folklore. Et c'est effectivement pour nous une forme de conclusion dans l'exposition qu'essayer de travailler sur un folklore planétaire qui circule et qui réunit. Donc le projet Bloc, c'est l'idée de repartir effectivement d'une tradition qui est la vente d'un arbre coupé qui est acquis par un groupe d'artistes comme MCOM et qui va lui faire revivre des folklores en lui faisant traverser différents pays, et on voit ce tronc un peu partout sur différents... Alors il y a une grande map monde et on voit le tour qu'a fait ce tronc qui s'adapte finalement aussi à chaque étape, puisque les gens vont danser autour, s'amuser autour, graver, etc.
Il est accueilli à chaque fois avec une grande sincérité, n'est-ce pas, Jean-Marie ?
Oui. Absolument, ouais. Ce tour du monde, maintenant, il a plus de 10 ans. Les artistes étaient hier dans l'exposition et m'ont raconté un peu plus concrètement aussi tout ce qui se passait à chaque fois autour de cet arbre. Et c'est vrai qu'ils se chargent finalement de différents rituels tout autour du monde. Donc, il a été dans des communautés indiennes en Arizona. Il a été également dans des déserts au Chili, mais aussi dans des bidonvilles à côté de Johannesburg. Il est en chemin. Alors, en ce moment, il est un peu confiné, mais il devrait prendre le chemin de l'Inde prochainement, puis de l'Asie. Donc, il fait tous les continents. Et puis, l'idée est qu'il revienne à un moment dans le lieu où cette tradition est née, donc dans ce petit village suisse dans la vallée d'Urnech. Et il y a vraiment l'idée d'avoir sorti le folklore qui est très cerné géographiquement. Le folklore est issu d'un village, a toujours été concentré de la vallée au village, dans une géographie extrêmement réduite, d'exploser ça à l'échelle planétaire, avec ce fantasme d'un folklore planétaire, justement, pour ensuite raconter un peu son voyage et raconter ces choses extraordinaires. Là, on retrouve vraiment cette idée qu'on a déjà au début de l'exposition avec les artistes d'avant-garde, que le folklore n'est pas quelque chose de fermé au sens à la fois spirituel et au sens géographique, mais quelque chose qui peut toucher à l'universel et qu'on peut faire voyager très facilement.
En fait, il y a toujours dans le folklore le rêve d'une sorte de communauté humaine unie, avec des racines spontanées, créatives, partagées, et que derrière tout cela, il y a un universalisme en fait qui semble se dessiner.
C'est précisément les mots de Benjamin Perret. Lorsque André Breton, parce que les surréalistes vont aussi beaucoup se passionner pour tout ça, et André Breton va inviter Benjamin Perret à écrire un texte qu'on va entendre, je pense, pour l'exposition internationale du surréalisme en 1947, et il parle de cette racine commune, justement, des superstitions.
Alors écoutons Benjamin Perret, puisque vous le suggérez.
D'un pôle à l'autre, le monde se hérisse de croyances en des signes fastes et néfastes que l'homme positif, d'une lèvre dédaigneuse, qualifie de superstition. Un lien commun naît de toutes ces superstitions. Une conscience poétique du monde qui constitue la base même de la pensée humaine, de son aurore jusqu'à nos jours, puisque cette conscience poétique palpite sur toute la surface du globe. Quelque effort qu'aient entrepris ces civilisations modernes pour l'étouffer.
Oui, c'est assez clair et c'est très beau d'ailleurs. Et ça nous permet d'évoquer évidemment l'impact extraordinairement fort et la tension très soutenue qu'ont eu les surréalistes pour ces traditions populaires. Et d'ailleurs, ça surgit aussi dans l'art magique d'André Breton, ce fameux livre de 57 où il évoque, ainsi que beaucoup d'autres aspects.
Et André Breton va même, alors on boucle la boucle si je puis dire, puisqu'André Breton a aussi une fascination en particulier pour la Bretagne. Et il va organiser des voyages, notamment sur les traces de Sérusier. Et c'est là où on voit qu'il y a beaucoup d'allers-retours dans l'exposition aussi entre les artistes, même de différentes générations, de différentes époques, de différentes géographies. Et André Breton va à un moment, dans les années 50, être pris d'une sorte de passion pour tout ce qui est celte. On appelait ça la celtomanie, il n'était pas le seul. Hein. Et il va se lier à des folkloristes comme André Varagnac, il va se lier à des spécialistes aussi. Et il va essayer à partir des collections de monnaie gauloise. C'est aussi Malraux qui va les photographier, les agrandir, et tout d'un coup on va découvrir des sortes de pré-abstractions dans les monnaies gauloises. Et il y a là pour André Breton une espèce de révélation que on a, et ça c'est évidemment quelque chose de très présent dans le surréalisme, pour le dire très simplement, on a été trop influencé par cette culture classique dominante liée à la Grèce antique, notamment à la culture latine. Il y a aussi une culture nordique celtique, et pour lui là il y a ce qu'il appelle une clé tellurique qui relie l'art moderne à l'art des l'art des Gaulois.
Puisqu'on parle de l'influence, la redécouverte de ces traditions, ça nous conduit vers le musée. Alors il y a deux musées dont je voudrais qu'on parle, il nous reste très peu de temps pour le faire, mais quand même, reparlons une seconde de Jean-Marie Rivière, ça c'est très important, et parlons de Marcel Brotars. Ces deux aspects que j'aimerais bien qu'on évoque. Jean-Marie Rivière, c'est vraiment une révolution dans le domaine muséographique.
Alors, Jean-Marie Gallet, Georges-Henri Rivière.
J'ai mis aucune importance.
Mais très bien, Georges-Henri Rivière, on s'est tout à fait compris, et rentré dans une dynamique qui visait à dire, et donc proche finalement de ces folkloristes, qu'il a quand même gardé un peu à distance, bref, pour dire on déhiérarchise les arts, et on fait émerger, donc c'est un regardeur des arts populaires. Et on lui doit réellement, Claude Lévi-Strauss le dira comme ça au moment de l'ouverture de la galerie culturelle du Musée des Arts et Traditions Populaires, on lui doit cette invention, cette collecte, cette conservation de cette collection dont le MUCEM effectivement a la charge. C'est plus d'un million d'objets et documents constitués depuis la fin du 19e siècle. Et on essaye, finalement, sur les recommandations de Claude Lévi-Strauss, de garder ça comme un vivier.
Ce qui est extraordinaire aussi, c'est la scénographie qu'il invente au Musée des Arts et Traditions Populaires.
Tout à fait.
Et donc vous avez exemplaire extraordinaire avec ce gardien hallucinant, fantomatique.
Oui. Alors la muséographie, c'est vrai que c'est le père de la muséographie. Il a conçu ça, alors moi je dis comme un chef d'orchestre, puisqu'il était musicien avant de travailler dans les musées, justement un jazzman. Il a pensé finalement et considérer ces vitrines comme une partition avec des silences, des plaints. Vraiment, tout ça est très harmonieux. Et il a traité ce vivant. Il a dit que dans son musée, il voulait donner la parole à ceux qui ne l'ont pas. Et effectivement, en même temps, il a fait disparaître le vivant. Parce que c'était des vitrines sur fond noir qu'on voyait justement et qu'on lisait de gauche à droite, sans mannequin, ce qui était une prise de distance.
Oui, ça m'a fait de la peine parce que j'adorais les mannequins du musée de l'art latin, par exemple, à Arles.
Oui. Hein,
qui étaient tellement beaux.
Alors,
mais on n'a pas le temps de rentrer dans ce détail.
Parce que la question des mannequins, alors pour parler de folklore, un des aspects qu'on n'a pas parlé sur le travail des folkloristes, qui était le travail sur les faciès régionaux, qui a donné lieu finalement à des figures humaines qui permettaient de présenter le breton, l'arlésien, etc. Et ça à l'échelle humaine et collective. Donc, ces figurez-vous, ces mannequins, on en a retrouvé quelques conservés dans les sous-sols du Musée des Arts et Traditions Populaires. Donc, certains sont rentrés dans les collections du MUCEM. Mais effectivement, il y a eu tout ce laps de temps où dans les vitrines, l'absence de l'humain était en même temps très poétique, très belle. Et les vitrines de Georges-Henri Rivière ont largement inspiré des artistes. Alors, il y a eu cette rencontre fascinante avec Pierre Le Guillon, qui est aussi venu dans les réserves du musée.
Très beau texte de lui dans le catalogue également. Il y a eu la présentation aussi, donc dans l'exposition chef-d'œuvre par Laurent Lebon, d'une des premières vitrines, comme dans Diorama au Palais de Tokyo. Et à chaque fois, ces vitrines deviennent des œuvres. Alors, il y a un personnage, on n'a plus le temps d'en parler, Marcel Brotars. En un mot,
il faudra que les auditeurs viennent soit à Metz, soit à Marseille pour se plonger dans un cabinet de curiosité qui est une section folklorique que Marcel Brotars décide d'ajouter à son grand projet. Alors effectivement, ça va être trop difficile d'en parler en peu de temps, mais Marcel Brotars va vraiment redéfinir la notion de musée en tant qu'artiste en créant un musée des aigles, un musée d'art moderne, département des aigles. Et c'est moins connu, mais il y a ouvert une section folklorique et on a pu la reconstituer de manière assez exceptionnelle avec le musée où il allait à l'époque nourrir ses échanges, prendre... Alors c'est Maria Gillison qui prenait les photographies. À partir de ces quelques photographies de 1970, on a réussi à reconstituer
C'est un tour de force. Merci beaucoup Jean-Marie Gallet. Merci infiniment Marie-Charlotte Calafa.
La matière, c'est la vie aussi.
Toutes ces idées qui viennent, il faut les attraper comme des mouches quand elles passent. Ce sont des idées bleues, des idées roses, des idées qui passent.
Parce qu'on veut transformer la vie pour un moment.
C'était l'art et la matière par Jean Deloisy en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Et aujourd'hui, j'ai reçu Marie-Charlotte Calafa et Jean-Marie Gallet pour leur exposition Folklore au Centre Pompidou-Metz jusqu'au 4 octobre et au MUCEM à partir du 4 novembre prochain. Vous retrouverez évidemment les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. Cette émission est conçue en collaboration avec Seam Boutata. Lecture des textes à belle voix de Nathalie Canoui. Merci Nathalie. La prise de son Manon Houssin. La réalisation David Jakubowiez. Et la semaine prochaine, nous allons aborder un sujet étrange, le strabisme du tableau, un essai sur les regards divergents dans le portrait, un travail passionnant de Nathalie Delbar. Et dans quelques instants, Jukebox par Amaury Chardot. Bon après-midi sur France Culture.